Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Christine O'Krent.
Bonsoir. Merci. Jefferson, il s'appelle Jefferson. On est déjà parti aux États-Unis.
Exactement. Là. Bon, écoutez, merci pour le clin d'œil, Christine O'Krent. On vous reçoit pour votre dernier livre, Le Trump de A à Z aux éditions de Noël. Et vous abordez le trumpisme sous l'angle du langage. Et il faut reconnaître que c'est assez fleuri. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, nous vivons au rythme de ses déclarations, de ses petites phrases, de ses invectives, de ses foucaves, et parfois même de ses insultes. C'est un peu une série sans fin dont le personnage central, c'est Donald Trump lui-même, le 47e président des États-Unis. Et je le disais, vous l'abordez sous l'angle du langage de A à Z. Vous nous emmenez à lettre C sur les crypto-monnaies. On évoque Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, la douche, le bureau ovale. Vous revisitez ces premiers mois de cette deuxième présidence Trump sous cet angle très précis où il est question de syntaxe, il est question de vocabulaire. On va y venir, mais avant de rentrer précisément dans votre propos, Christine O'Krent, vous avez croisé la route de Donald Trump il y a quelques années.
Oui, il ne s'en souvient pas. Hein.
Voilà, et je voudrais quand même qu'on partage ensemble au moins ce sentiment, parce que vous l'avez vu avant qu'il devienne président des États-Unis, mais déjà, quel homme était-il? Parce que vous m'avez dit tout à l'heure en préparant tout ça que c'était quand même quelqu'un d'assez incroyable.
Ah, mais Donald Trump est une bête de scène. C'est un communicant hors pair. C'est ce qui explique, à mon avis, qu'il ait encore une fois réussi à revenir au pouvoir, alors que n'importe quel homme ou femme politique accablé par l'avalanche de procès dont il était la cible et de condamnation, il a été condamné au pénal, il a été poursuivi pour fraude fiscale, il a eu 3 procès au niveau fédéral aux États-Unis, plusieurs dans l'État de New York. Et malgré tout cela, malgré tout ce que l'on savait du personnage, de ses mœurs, de sa forme de vulgarité, c'est quand même bien le terme qu'il faut employer, de l'espèce de désinvolture avec laquelle il avait tergiversé lors de son premier mandat, avec un bilan qui était quand même pas terrible, il a été réélu. Et donc là, il faut reconnaître un talent hors norme qui déjà se vérifiait il y a 10 ans, donc la campagne électorale 2015-2016. D'abord parce qu'il a éliminé, vous savez, dans leur système, il y a ce qu'ils appellent des primaires. On a ça parfois chez nous aussi, mais pas tout à fait à la même échelle. Et donc, au départ, pour éliminer, il votait démocrate, hein, Trump. Et puis il a vu. Depuis New York, où il construisait ses tours en frôlant la faillite, quand même beaucoup plus souvent qu'il ne veut bien le dire. Néanmoins, il a vu qu'il y avait une ouverture meilleure côté républicain, donc il change de camp. Et là, en 2015-2016, les grandes chaînes de télévision qui organisent les débats entre candidats à la primaire républicaine se disait, on va quand même pas inviter Trump parce qu'il a aucune chance. Et il y avait 8 candidats pour cette primaire. Et puis un petit malin, un producteur de télé, a dit, mais vous vous trompez, c'est un communicant formidable. Il va faire le show. Il a tellement bien fait le show qu'il a éliminé tous les autres, y compris un Bush, un frère Bush, Jeb Bush, qu'il a traité parce qu'il a en plus non seulement un bagou, une présence physique dont il s'est joué, mais un sens de la formule et des caricatures, de la caricature. Donc il trouve toujours des formules pour accabler ses adversaires. Bref, donc je l'ai vu à l'œuvre dans ces débats, c'est tout à fait saisissant. Et c'est là où on voit que c'est quelqu'un qui a toujours correspondu avec un maximum d'efficacité aux médias dominants du moment. Il se trompe jamais d'époque. Et donc, quand il se lance dans la promotion immobilière, c'était pas du tout l'un des grands promoteurs. Il était d'ailleurs plutôt snobé par le tout New York. À un moment donné, il avait hérité de son papa un groupe dans le Queens. Et il avait surtout aussi hérité des conseils de l'avocat de papa, qui était aussi, en passant, l'avocat des mafias, ce qui n'est pas négligeable dans l'histoire. Et donc, cet avocat, Roy Cohn, lui avait expliqué, il faut toujours être à la une. Il faut toujours occuper le centre du débat et faire en sorte que les autres passent leur temps à commenter ce que tu viens de dire. C'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la planète entière qui passe son temps à commenter ce que Trump vient de dire. Mais à l'époque, il appelait les journaux à scandale à New York en commentant la vie sexuelle de Donald Trump. Et donc, il avait la une.
On racontait dans des fausses informations aussi.
Oui, parce qu'il racontait la princesse Diana n'a pas pu résister. Enfin, des histoires de, absolument
mirifiques. Son charme.
Son charme irrésistible. Donc ça, c'était les journaux à scandale à New York. Ensuite, et ça, c'était très important pour comprendre l'alchimie de son ascension, il a parcouru le pays profond pendant 14 ans. Et pendant 14 ans, il est allé dans toutes ces villes moyennes, vous savez, dans cette Amérique du milieu, où on va assez rarement. Et là, il a compris le désarroi de cette population, surtout des hommes blancs. Aux États-Unis, on peut caractériser les gens par leur origine ethnique. Ça ne se fait pas chez nous, mais là-bas, oui. Donc, le désarroi de ces hommes blancs au milieu de la mondialisation, de la désindustrialisation de régions entières, toute une population travaillée au cœur par les religions évangéliques qui sont très puissantes, très riches, et qui ont vu en Trump quelqu'un qui pouvait traduire le malaise de ces gens. Il a fait ça pendant 14 ans. Et c'est véritablement le socle de son ascension politique et un socle qu'il continue de cultiver. Et ce sont ces gens-là qui l'ont ramené au pouvoir l'année dernière.
Juste une parenthèse sur le poids de la religion dans tout ça, qui est complètement contradictoire avec les mœurs, les frasques de Donald Trump. Et pourtant, cette église évangélique-là le soutient, alors qu'il ne répond pas du tout à leurs normes habituelles. Il y a quand même un delta entre le Trump personnage fracassant aux multiples conquêtes et cette église-là qu'il soutient.
Oui, mais c'était déjà le cas il y a 10 ans, et parce que ce sont des églises très politiques aussi, et qui ont vu, et richissimes.
Donc on parle de
pouvoir. L'argent, là-bas, et avec aussi une théorie de la richesse, qui a beaucoup influencé Trump jeune, un pasteur méthodiste en l'occurrence, qui a écrit plusieurs livres sur le thème « Dieu souhaite que vous soyez riche ». Il y a une théologie de la richesse qui nous est assez étrangère, il faut bien dire, mais qui là-bas est puissante. Et donc le fait que cet homme s'affiche comme étant milliardaire, maintenant, il est multimilliardaire, surtout depuis qu'il est revenu au pouvoir, je suis sûr qu'on en parlera.
On va en parler.
Mais ces églises-là ont vu en lui un vecteur beaucoup plus proche de leur propre base qu'une famille, finalement, d'aristocrates de la politique comme les Bush, où ils étaient, il y avait Papa Bush, il y a eu...
On était dans la dynastie.
Des dynasties côté républicain comme côté démocrate, d'ailleurs. Et donc, Trump est apparu comme étant beaucoup plus authentique. Et c'est un tour de force. Et ce qui passe dès le départ par cette formidable capacité à parler très simplement et à ne pas faire semblant de s'embarrasser de la complexité des choses. Il n'en a rien à faire. Il lit pas un livre. Il a fait des études d'économie jusqu'à la licence. Il en a conçu un mépris immense pour les grandes universités. On l'a vu d'ailleurs ces derniers mois. Pour d'autres raisons aussi. Donc voilà, c'est un personnage qui a su capter une angoisse et qui l'a traduit avec des mots très simples, déjà il y a 10 ans.
Justement, je vais rester sur les mots, parce que c'est le cœur de votre ouvrage, Christine Ockrent, mais quel est votre regard, avant de rentrer précisément dans vos chapitres de ce livre, mais entre le Trump 45e président des États-Unis et le Trump 47e. On a l'impression que le 45e s'est un peu essayé au pouvoir, un peu balbutié son exercice, et que là, on a quelqu'un qui est complètement décomplexé et qui est passé à la vitesse supérieure. Comment vous l'analysez, vous reprenez toutes ces citations, toutes ces phrases, dans la syntaxe exacte d'ailleurs.
Oui, je crois que c'est tout l'intérêt, parce que ça ne sert à rien de faire des grandes théories ou même, enfin, il y a des gens très éminents qui font de très bons livres, mais ça ne vous explique pas le personnage. Le personnage, il faut s'attacher à ce qu'il dit, il parle tout le temps. Il faut s'attacher à ce qu'il écrit. Il écrit tout le temps sur les réseaux. Il a son propre réseau social qui s'appelle Truth Social, ce qui est quand même une contradiction. La vérité, s'agissant de Trump, c'est quand même très, très particulier, mais bon. Et donc, je crois qu'il faut passer vraiment par ces mots. Donc, je me suis astreinte, c'était pas marrant, hein. Pendant des mois, en plus avec le décalage horaire, parce que 6 heures de décalage, donc c'était la nuit qu'il fallait découvrir tout ce qu'il avait pondu dans la journée et toutes les interviews, parce que la communication est son oxygène, donc il s'exprime sans arrêt. Mais c'est véritablement ainsi que l'on comprend l'emprise qu'il a sur une certaine Amérique. Et une emprise qui, évidemment, a été accélérée par les problèmes économiques du mandat de Biden précédemment, et l'inflation en particulier, qui a été et qui redevient d'ailleurs un sujet de préoccupation pour l'administration. Mais pour répondre plus précisément à votre question, il l'explique lui-même, et je raconte d'ailleurs cet épisode dans ce livre, et il reçoit... Il aime bien se frotter à des gens qui ne sont pas d'accord avec lui, parce que voilà, il a un côté, je suis le meilleur, je suis un gagneur, donc je vais leur montrer, etc. Et donc il reçoit assez tôt, fin février ou en mars, je crois, l'équipe d'un excellent magazine qui lui est assez hostile, qui s'appelle The Atlantic. Et le patron, Goldberg, lui dit, mais alors, vous êtes à nouveau dans ce bureau ovale, qu'est-ce qui a changé ? Par rapport à il y a 10 ans. Et Trump dit, ben, c'est très simple. Il y a 10 ans, j'étais entouré, pardon pour la vulgarité des mots, hein, je traduis le président des États-Unis d'Amérique. Avant, j'étais entouré de connards qui m'empêchaient de faire ce que j'avais envie de faire. Eh ben, je les ai tous dégagés. Et maintenant, je n'ai que des gens qui sont d'accord avec moi. Et tous ces gens qui l'entourent aujourd'hui, et je crois que c'est fondamental, ce sont des gens qui ont accepté de participer à un mensonge fondateur qui est d'affirmer que Donald Trump n'a jamais perdu les élections de 2020. Il les a gagnées, mais il y a eu une triche immense. Et donc, il fait en fait son troisième mandat. Alors, vous dites, mais quand même, enfin, donc on voit autour du Conseil des ministres, et ce sont des scènes, mais sidérantes, où il y a des gens, y compris Marco Rubio, qui est donc le ministre des Affaires étrangères. L'ironie veut que, à l'époque, sénateur de Floride, très prometteur, il avait participé à une enquête sur l'ingérence russe dans l'élection de 2016. Rubio, qui est maintenant ministre des Affaires étrangères, là, on compte quand même, nous autres Européens, beaucoup sur lui pour... sortir du plan russe pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Et Rubio, donc, en fait, ça veut dire qu'il a accepté de souscrire à cette idée que, oui, Trump a été victime d'une triche majeure et qu'il a gagné.
Au mépris de tous les faits, au mépris de la réalité.
Et... Ah non, mais il ne faut plus... Ça, Jefferson, c'est un vocabulaire qu'il faut oublier.
Exactement.
Il ne faut plus parler des faits, il ne faut plus parler de réalité... Faut plus parler de corruption non plus, hein, ou de conflit d'intérêts.
Vous le racontez très bien dans le livre, tout ça, et on viendra sur la famille après. Simplement, juste au moins une question technique, parce que vous avez traduit le Trump. Est-ce que ça se traduit bien en français? Parce que ce sont que des expressions, quasiment des slogans. Il fonctionne en termes de slogans. Est-ce que la résonance française est satisfaisante? Est-ce que vous avez trouvé la bonne traduction, la bonne distance?
J'espère, mais c'est vrai que c'est très difficile. Par exemple, le mot « lunatique ». Parce qu'il traite ses adversaires, démocrates en particulier, qui sont tous des gauchistes lunatiques. Bon, lunatique, en anglais, c'est vraiment très, très... C'est une insulte. En français, on dit « il est lunatique ». Enfin, d'abord, ça se dit pas. C'est pas un mot de la langue française. Mais c'est une bonne question, parce que les approximations... En plus, l'anglais est une langue très, très brève. Avec des mots d'une ou deux syllabes. En français, on est beaucoup plus étiré. Et donc, comme il est sans arrêt à poster, comme on dit aujourd'hui, des messages sur les réseaux sociaux, sont des messages très simples. Ce ne sont pas vraiment des phrases, même en anglais. Il y a beaucoup de majuscules, beaucoup de points d'exclamation, beaucoup d'exhortations. Quand l'affaire Epstein a commencé à empoisonner les choses, parce que les complotistes, ça leur retombe quand même toujours à peu près sur le nez. Donc, quand il a vu que dans le socle MAGA, avec, encore une fois, tous ces gens religieux qui sont convaincus que il y a des listes d'affreux pédocriminels qui boivent le sang des petits-enfants. Enfin, il y a toute une littérature de ce mouvement QAnon. Vous vous souvenez de ce type avec des cornes de bison
le 6 janvier 21 ? Qui est entré dans le Capitole.
Voilà, pour aller casser. Alors, ce type-là, qui a été gracié par Trump 2, d'ailleurs l'un des premiers décrets présidentiels en janvier de cette année, quand Trump revient au pouvoir, il gracie les émeutiers du 6 janvier. 2200 personnes, quand même, graciées. Beaucoup d'entre eux ont été embauchés dans cette nouvelle force qui s'appelle ICE, I-C-E, qui doit remplir des quotas pour chasser les illégaux, pour chasser les sans-papiers. Il y a eu, c'est vrai, une immigration massive que l'administration démocrate précédente n'avait pas réussi à juguler et qui a été vraiment l'un des ferments de la victoire de Trump en disant « tous ces gens doivent sortir », etc., etc. Donc, tous les émeutiers du 6 janvier, la plupart d'entre eux, vous ne les voyez pas parce qu'ils sont cagoulés, armés, avec des gilets pare-balles, etc. Et leur job, c'est de ramasser, pardon de la vulgarité de l'expression, de ramasser du basané. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui sont parfaitement légalisés aux États-Unis, qui ont leurs papiers, qui sont des citoyens américains et qui n'osent plus aller faire leurs courses parce qu'ils sont d'origine hispanique, venus de tous ces pays de la frontière sud. Et que ces gens, les ex-émeutiers du 6 janvier, sont chargés de rafler. Et donc là, on est dans ce monde MAGA, qui, encore une fois, est très spécifique et auquel Trump ne cesse de s'adresser avec une force de persuasion singulière qui passe par un vocabulaire très abrégé, encore une fois, des mots très courts, beaucoup de points d'exclamation et effectivement une difficulté de traduction parfois, notamment quand il s'en prend à tous ses ennemis, c'est-à-dire tous ceux qu'il déteste.
Et il y en a beaucoup.
Et il y en a énormément, et il le dit, je vous déteste. Alors, ce qui ne se fait pas du tout.
Il y a quelque chose de
singulier. C'est pas du tout dans la tradition américaine de dire, en général, avec la bonne dose d'hypocrisie, mais ça fait partie du job. Un président américain est élu. Il prête serment et il dit « Je suis dorénavant le président de tous les Américains, quelles que soient vos opinions, etc. Et nous allons œuvrer pour le bien-être de l'Amérique. » Trump, non, pas du tout. À chaque occasion, et notamment dans cette cérémonie absolument spectaculaire après l'assassinat affreux de ce jeune Charlie Kirk, donc ce jeune homme de 34 ans qui, avec beaucoup de succès, faisait le tour des universités et des collèges pour prêcher le trumpisme, et surtout auprès des jeunes hommes, donc le virilisme, le mépris des femmes, il faut bien le dire, la chasse au wokisme, dont les excès, d'ailleurs, sont à prendre en compte dans la victoire de Trump aussi, parce qu'il y a toujours un mouvement de balancier. Et là, dans un stade immense, Trump est là avec la veuve, il y a tout le gouvernement, et la veuve fait un très beau discours d'ailleurs en disant Charlie aurait pardonné à son assassin, et Trump est à côté, il dit mais moi pas, moi je hais mes ennemis, je vous déteste, les démocrates, les lunatiques, les gauchistes, c'est Donald Trump.
Justement, quand on vous lit, Christine O'Connor, parce que vous reprenez ces citations, et il y a quand même des personnages récurrents dans les citations de Donald Trump, Sleepy Joe, Joe Biden, il n'y a pas une journée, il doit prendre une réflexion,
Barack, au moins une.
Hussein Obama aussi. Il cite toujours ses prédécesseurs comme ses adversaires, comme si sa réélection n'avait pas purgé quelque chose. Comment vous l'analysez? Comment vous le regardez? Parce que dès qu'il est en difficulté, c'est la faute de Biden, c'est la faute de Obama. Et ça apparaît très clairement quand on reprend mot par mot ce que vous avez fait, ces déclarations.
Oui, parce que Biden, très fatigué, hein, et franchement, c'était une erreur massive de la part de son équipe et du Parti démocrate que d'imaginer qu'il pouvait se représenter, mais c'est presque un autre sujet. Donc Biden est indéfiniment accablé des injures, le tordu, le vicelard, il est stupide, enfin bref. Et on a demandé à Biden, dès le mois de janvier-février de cette année, mais pourquoi est-ce que le président vous accable autant ? Et alors Biden a eu un petit sourire, il a dit « parce que je l'ai battu ». Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que Donald Trump est un gagneur. Donc vous ne pouvez pas imaginer qu'il soit battu par quiconque. Et Obama, ça c'est terrible, il a eu le prix Nobel.
De la paix.
De la paix. Ce qui était d'ailleurs entre nous complètement idiot, parce qu'il n'avait encore rien fait, il venait d'être élu. Mais bref, il a le prix Nobel de la paix. Donc l'obsession de Donald Trump, de dire « moi j'ai réglé 8 guerres ». Alors parfois il s'embrouille dans le nom des guerres. Il y a d'ailleurs un épisode à mourir de rire. Le premier ministre albanais, qui s'appelle Monsieur Rama, qui est un très grand type, très drôle, croise Emmanuel Macron à une réunion européenne il y a quelques mois, et il dit « mais Emmanuel, tu ne me félicites pas ?» Alors Macron, hein, Rama dit « mais comment ? J'ai signé, grâce à Donald, j'ai signé la paix. J'ai signé la paix, moi, l'Albanie, avec l'Arménie. » Alors Macron le regarde. Pourquoi ? Parce que Trump s'était trompé. Il avait confondu l'Albanie avec l'Azerbaïdjan. Alors depuis, il se balade avec une petite liste de toutes les guerres qu'il est censé
avoir réglées.
Et alors, il y a les guerres et puis il y a les pré-guerres. Ah oui. Parce qu'il y a aussi les pré-guerres. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais il a aussi réglé des pré-guerres. Cela dit, pour être sérieux, il a imposé quand même au premier ministre israélien une sorte de règlement à Gaza, ce qui a permis le retour des otages. Enfin, il y a des succès importants. Sur l'Ukraine, encore une fois, et en ce moment même, on frémit encore à l'idée de ce qui pourrait se passer, parce qu'il change d'avis tout le temps. Ça, c'est une autre caractéristique.
C'est ce que vous racontez dans le livre. Alors, je voulais qu'on y vienne. On va y venir tout de suite, puisque vous en parlez avec Christine Ukraine. Je voulais qu'on parle de Zelensky et de Trump. Vous consacrez un chapitre à chacun des deux.
À la lettre Z et à la lettre Z.
Voilà. Je pense que là-dessus, on est complètement clair. Donc, ils se suivent un peu plus loin. Donc, on passe d'abord par Poutine et on finit par Zelensky. Commençons donc dans cet ordre-là. Poutine, vous en parlez dans ce livre. Vu d'ici, on présente Trump souvent comme l'idiot utile de Poutine. Racontez-nous cette relation particulière, parce que vous venez de le dire, il change sur la question ukrainienne, il accuse Zelensky de tous les maux, d'être responsable de la guerre, encore une fois, au mépris des faits et de la réalité, mais peu importe. Puis après, il s'agace, il dit que finalement, vous l'écrivez très bien, Poutine dit que des conneries, ça devient, c'est illisible. Quelle perception avez-vous ? Racontez-nous cette relation Trump-Poutine.
C'est une relation très ambiguë, dès le premier mandat. Et donc, il faut remonter à l'ingérence prouvée, il y a 10 ans, l'ingérence du Kremlin dans l'élection, enfin dans le combat Trump-Clinton, avec une panoplie de moyens qui, depuis, avec les réseaux, l'intelligence artificielle, etc., sont devenus encore beaucoup, beaucoup plus puissants et qu'on voit à l'œuvre dans nos propres pays, avec cette idée que il faut fracturer au maximum les sociétés démocratiques. Et dans ce cas précis, en 2015-2016, il faut faire gagner Trump. Pourquoi, à ce moment-là, Poutine se dit-il qu'il faut faire gagner Trump ? Alors, il y a différentes hypothèses, plus ou moins crédibles. Ce qui est sûr, c'est que Trump, promoteur immobilier, est aussi organisateur de concours de beauté, ce qui est un aspect de son parcours qui n'est pas inintéressant par rapport aux femmes. Il est allé à Moscou 2 fois, donc à la fin des années 90, début des années 2000, avec le projet de construire des tours Trump, si possible, le plus près possible du Kremlin, parce que tant qu'à faire, c'est le meilleur endroit. Et il a obtenu de l'argent russe à un moment où il était financièrement en difficulté pour une histoire de casino. Il s'était lancé dans des casinos aux États-Unis. Ça n'avait pas marché. Et l'un de ses fils, Eric Trump, l'a reconnu, dont, enfin, l'a carrément dit dans l'une des interviews. Oui, on a heureusement, on a eu de l'argent russe à un moment donné, des investissements russes. Alors, il y a une autre théorie qui ressort périodiquement, qui est celle du compromat, qui est le mot russe, pour expliquer que dans ces hôtels de luxe farcis de caméras, les services russes ont la spécialité de filmer les ébats sexuels de certains invités de marque, et qu'en particulier, il y aurait donc... C'est ce qu'un espion britannique assez douteux a essayé de vendre à un moment donné. Après, on s'est aperçu que le type était quand même très bidon, l'anglais en question. Mais donc, il y a cette idée qu'il y aurait un compromat sur Trump. Toujours est-il que dans cette campagne de 2016, et là, il y a eu à la fois une enquête du FBI dirigée par ce personnage dont Trump veut se venger à tout prix, parce que Trump se venge. Il a d'ailleurs intitulé sa dernière campagne électorale le tour de la vengeance, the Vengeance Tour. Donc, Comey, patron du FBI, limogé par Trump en 2017 ou 2018, mène une première enquête pour déterminer l'intensité de l'ingérence russe à ce moment-là. Et il y a aussi une enquête d'un procureur spécial, Mueller, qui conclut à une interférence massive en faveur de Trump, mais pas de complicité criminelle, c'est le terme qui juridiquement est important, de la part de Trump ou des siens. Mais on voit déjà les mêmes protagonistes. Trump, depuis ce moment-là, déclare « J'ai beaucoup souffert de ce canular russe, le Russian hoax », ça devient une antienne pour lui, il en parle sans arrêt, et il dit aujourd'hui, tout le temps, à propos de Vladimir Poutine, ça nous unit parce que lui aussi a beaucoup souffert d'être ainsi accusé, d'être intervenu. Et donc, ce qui est fascinant depuis janvier dernier, c'est la manière dont Trump veut se persuader que lui seul est capable de séduire Poutine. Il a toujours aimé les hommes forts. En fait, les régimes, les hommes forts, bien virils, Poutine torse nu sur son cheval ou pêchant le saumon, ça lui va tout à fait. Et donc, il y a cette idée, et le verbatim est saisissant, Poutine ne parle qu'à moi, je suis le seul à qui parle Poutine. Et donc, tout au long de ces 10 mois, qui paraissent quand même déjà extrêmement... Voilà, on voit que tantôt Donald Trump, sur les réseaux sociaux, dans ses interviews, dans ses conférences de presse, dit « Moi, je suis la seule à... » Parce qu'il y a eu cette arnaque sur la Russie, c'est scandaleux, on m'a poursuivi, tout ça, c'est un mensonge, c'est la faute d'Obama, Barack Hussein Obama, bien sûr, mais moi j'ai un lien avec Poutine, et donc je peux lui parler. Alors, et donc il dit, il est le premier, souvenez-vous, à décrocher son téléphone pour appeler Poutine. Poutine était non grata, si j'ose dire.
Paria international.
Tous les Occidentaux, c'était fini, Poutine, depuis. Donald Trump n'a jamais reconnu que c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine. À ce jour, ça, c'est le quatrième hiver de cette guerre. Hein. Une guerre que l'Ukraine n'a pas perdue, ce qui est quand même absolument remarquable. Et donc, Trump passe son temps à dire « Je suis la seule à... je suis... » Donc, il décroche son téléphone, il appelle Vladimir. « On a eu une conversation merveilleuse, parce qu'on pourrait faire un business, mais tellement formidable, etc., avec cette guerre stupide, et ce général russe. Mais pourquoi il n'a pas pris l'autoroute pour aller à Kiev tout droit ?» Je vous assure, il dit ça, mais à chaque fois. « Pourquoi ce général russe ? Mais quel imbécile, il est passé par les champs !» Alors évidemment, il s'est embourbé. S'il avait pris l'autoroute, il y serait allé tout droit, et Kiev aurait été pris tout de suite. Non, on se dit, mais c'est quand même pas possible, le président des États-Unis. Et il dit ça, mais périodiquement. Et puis, de temps en temps, quand les bombardements russes sont trop brutaux, etc., il dit, mais Vladimir, stop, Vladimir, en majuscule. Hein. Stop, Vladimir, tu es devenu fou, c'est pas possible. Alors on se dit, ah ben ça y est, il a enfin compris. Non. 4 jours après, conversation merveilleuse avec Vladimir Poutine. On pourrait faire un business tellement...
C'est toujours ou merveilleux ou formidable. Et vous
c'est toujours great. It's great. What a guy. What a great. Et on a tout fait. On pourrait faire. Et c'est formidable. On pourrait faire des investissements merveilleux, mais etc. Et alors, dans les réunions internationales, notamment une réunion de l'OTAN, c'était au Canada l'été dernier. Il explique. Il donne une conférence de presse en présence du secrétaire général de l'OTAN, qui est le Néerlandais. Rutte, l'ancien premier ministre néerlandais. Et donc, Trump dit, mais enfin, quand même, cette guerre, c'est quand même affreux. Alors, que Trump soit sincèrement contre la guerre, on peut le lui accorder, sûrement. Mais il dit, oui, enfin, vous savez, c'est comme des gamins qui se chamaillent dans la cour de récré. Il faut que ça passe, quoi. Et à un moment donné, ils en auront marre, et puis après, on pourra faire du business. Et vous savez ce qu'a dit, parce qu'il y a un personnage qui se dessine, qui se précise de plus en plus, qui est le vice-président, qui lui se met alors vraiment dans le sillage pour
J.D.
être...
J.D. Vance,
il y a 4 jours, quand on s'aperçoit que le plan, les 28 points, sont tellement mal traduits du russe en anglais, qu'il y a des expressions qui, en anglais, ne font pas sens. J.D. Vance donne une interview et il dit, même chose, il dit, allez, on en a marre de cette guerre, donc que ça se termine. D'ailleurs, le président Trump, dans son immense lucidité, dans sa clairvoyance, voilà, donc il y a un plan, et puis comme ça, ils peuvent faire du business, et puis des échanges culturels. Et on se dit, mais ces gens ne se... Enfin, donc on est, et c'est pour ça, à mon sens, qu'il faut, il faut être très, très, très attentif à tout ce qu'ils disent. Ils sont ailleurs. Ils sont pas dans la même réalité que nous. D'ailleurs, les faits n'ont plus aucune importance. Vous vous souvenez que pendant le premier mandat, la porte-parole de la Maison-Blanche, c'est pas celle d'aujourd'hui qui est impayable, celle-là, la Caroline Leavitt, elle est impayable. Mais il y a 10 ans, à ce moment-là, la porte-parole avait trouvé cette formule qui, je crois, qu'il faut sans arrêt ruminer. Elle avait, un journaliste disait, mais madame, ce ne sont pas les faits. Et elle avait répondu, mais ce sont nos faits. Les faits alternatifs. Et nous sommes entrés là-dedans, avec l'intelligence artificielle qui est un accélérateur de particules, avec cette imagerie où on voit Trump, on le voit dans mon livre, il y a une imagerie religieuse, il y a une iconographie où on voit Trump... on voit Trump, par exemple, en redingote noire, marchant dans un champ de ruines, parce que tout son discours, c'est qu'il est en train de sauver l'Amérique. C'est le Messie. Et donc, justement, et la légende, c'est Dieu guide ses pas. Il y a une femme pasteur évangélique qui est sa conseillère spirituelle depuis des années. Elle a un physique quand même assez hollywoodien, mais enfin, c'est une femme pasteur.
Vous avez un chapitre sur Hollywood, d'ailleurs, dans le livre.
Oui, mais c'est très important, la manière dont la religion est une dimension qui est travaillée sans arrêt, mise en image. Dieu l'accompagne, Dieu le protège, Dieu guide ses pas, vous n'avez encore rien vu, mais Dieu veille à tout ça, etc. Cette dame a publié... il y a 4 jours, parce que l'affaire Epstein continue de fermenter, hein, c'est pas du tout sous contrôle, cette histoire, pour eux, enfin pour Trump et son groupe. Et là, elle envoie un message, où on la voit à elle, disant « Ceux qui disent non à Trump disent non à Dieu. » Donc nous sommes dans un autre monde. Et surtout pour nous autres,
vu d'ici,
pour
c'est
qui, enfin, par rapport à nos traditions. Alors, je suis sûr que ça vous est arrivé, vous connaissez très bien les États-Unis. Essayez d'expliquer la laïcité à un Américain, il n'a toujours pas compris. Hein.
Christine O'Crane, on va poursuivre, parce que finalement le temps file, mais vous dites qu'ils sont dans un autre monde, et pourtant, il y a un monde sur lequel ils sont très présents, c'est celui de l'argent. Et vous en parlez dans le livre, parce que les contrats, les plans de paix, derrière les plans de paix, qu'ils aboutissent ou non, mais très vite, on voit apparaître la famille. Et c'est une famille de bâtisseurs, de promoteurs immobiliers. Ils ont toujours la fibre immobilière. Comment, vous le racontez très bien, il n'y a plus de conflit d'intérêts, ça n'existe plus dans l'univers de Trump. Comment ça se matérialise? Et là, on a le gendre qui n'est pas loin, la famille n'est pas loin, et les contrats ne sont pas loin, et l'enrichissement est au rendez-vous.
Oui, le Financial Times, qui n'est pas une feuille de chou, enfin qui est vraiment un journal sérieux, a estimé que la famille Trump, le Trust Trump, s'est enrichi de plus d'un milliard de dollars depuis le mois de janvier. Donc, Trump arrive au pouvoir le 20 janvier. Le 22 janvier, l'un de ses premiers décrets, il annule les lois anticorruption. Pourquoi ? Parce que c'est mauvais pour le business. Donc, il n'y a plus de loi anticorruption. Les conflits d'intérêts, le terme a disparu du vocabulaire. Et donc, ses fils, Donald Jr. et Eric, le convainquent que c'est même pas l'avenir, le présent, ce sont les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est épatant parce que ça permet de blanchir énormément d'argent. Que fait le président des États-Unis ? Il gracie un certain nombre de crypto-criminels qui étaient en prison aux États-Unis pour blanchiment d'argent, de la drogue, enfin de méfaits divers, ils sont graciés. Et ils décident qu'il faut, à côté de Fort Knox, qui est le lieu emblématique où sont entreposées les réserves qui fondent la solidité du dollar américain, il dit, bon, ben, on va faire un Fort Knox des cryptos. Alors on lui a expliqué que les cryptos, ça ne se matérialise pas vraiment. Mais bon, il comprend suffisamment pour autoriser ses fils à fabriquer pour l'inauguration des, ce qu'on appelle des mèmes. Donc il y a un crypto Trump et un crypto Melania, parce que tant qu'à faire, autant faire un peu d'argent pour les deux. Et donc, comme c'est spéculatif, donc ces cryptos ont une certaine valeur. Après, ça a baissé, mais enfin, ils ont quand même fait un peu d'argent. Et puis surtout, comme vous le disiez, vous vous souvenez que Trump a fait cette tournée au Moyen-Orient. Il n'est pas allé en Israël à ce moment-là. Il a commencé, comme toujours, si j'ose dire, par l'Arabie Saoudite, et puis le Qatar, et puis les Émirats. Avant lui, une semaine avant, le deuxième fils, Eric, fait le même itinéraire. Et chaque fois, il ramasse des contrats pour des projets immobiliers, des golfs, puisque la famille aime beaucoup le golf et les golfs. Et il encaisse aussi des investissements, mais gigantesques. L'émirat d'Abu Dhabi, 2 milliards de dollars dans les fonds crypto de la famille Trump. Donc, il y a aussi le gendre, qui est très habile, et ils sont partout. Et dans le dernier plan russe pour mettre un terme à la guerre en Ukraine, là, les fameux 28 points qui, fort heureusement, ont été détricotés, semble-t'il, assez efficacement par les Européens, il y a évidemment un deal. Un deal, c'est-à-dire qu'il y a des fonds russes qui sont gelés dans le circuit bancaire européen.
Les avoirs russes.
Les avoirs russes, 270 milliards de dollars. Le projet européen, difficile à mettre en œuvre, c'est au moins de consacrer 140 milliards à la reconstruction de l'Ukraine, une fois que cette guerre sera terminée. Dans le plan, les 28, concocté par qui ? Par Steve Witkoff, qui est le grand copain de Trump, promoteur immobilier, on l'a vu à l'œuvre en Israël, on le voit à l'œuvre là, un peu partout. Il trouve que Poutine est un type épatant, parfaitement sincère. Witkoff, promoteur immobilier, hein, et donc il dit, ben, on va faire des deals. Et donc, il fait un deal avec Dmitriev, qui est le Russe, qui dirige le fonds souverain russe. Donc ces deux-là s'entendent comme larrons en foire. Et donc, dans le fameux plan, les 28 points, là, il y a un deal pour que l'argent russe, ben, tout à coup, il n'est plus du tout en Europe. Hein, du tout, non. Il est partagé entre le Kremlin et la Maison-Blanche pour faire des deals, pour investir dans les métaux, dans les ressources minières en Russie, les terres rares, tout ce qui préoccupe à juste titre la Maison Blanche par rapport à la Chine. Et puis, c'est merveilleux, on va faire du fric.
Je reste sur l'argent, Christine O'Connor, parce que vous le racontez dans le livre. Alors c'est anecdotique, mais à Mar-a-Lago, vous racontez la boutique de souvenirs de la famille Trump.
Oui.
Et je voudrais que vous nous racontiez ça, et après on parlera de cette fameuse casquette Trump 2028, parce qu'elle dit aussi beaucoup de choses. Mais allons-y sur les souvenirs, parce que c'était quand même.
Alors les souvenirs à Mar-a-Lago, bien sûr. Donc c'est la demeure que Trump a racheté, qu'il a embelli, comme il dit. Il y a de l'or partout. Hein.
On y viendra en parlant du bureau ovale, juste
après. Oui, parce que ça, c'est quand même très, très particulier. Donc, il y a aussi une boutique aux souvenirs à la Maison Blanche. Hein.
Exact.
Et donc, en particulier, il y a des produits dérivés qui portent la signature de Donald. Et donc, parmi ces produits dérivés, il y a évidemment une Bible. Elle est imprimée en Chine. Ça, c'est un peu gênant. Les casquettes aussi sont fabriquées en Chine, mais ça, on oublie parce que la guerre commerciale... Enfin, bref. Et il y a du parfum. Il y a deux parfums.
Avec un joli titre.
Il y en a un qui s'appelle 45, puisqu'il était le 45e président des États-Unis il y a 10 ans, et le 47. 47e. Est-ce que vous avez vu cette scène où le président syrien, qui est donc l'ancien djihadiste Al-Shara, qui arrive à la Maison Blanche, c'est la première fois depuis que la Syrie existe qu'un président syrien est reçu à la Maison Blanche. Sur la tête de ce garçon, il y avait une prime de 50 millions de dollars il y a encore quelques mois. Toujours est-il qu'il est reçu. Parce que ça, c'est le côté de Trump qui est toujours intéressant. Il est transactionnel, comme on dit. C'est-à-dire qu'il voit l'intérêt à très court terme. Il n'a pas de principe, il n'a pas de mémoire. Il faut que ça marche tout de suite. Donc, et c'est intéressant dans le cas de la Syrie. Après, on peut entrer dans toutes sortes de considérations. Toujours est-il que Al-Shara est dans le bureau ovale avec son ministre des Affaires étrangères. Trump s'approche avec son parfum. Non, mais il faut voir ça. Et il vaporise du parfum. Et il dit à Al-Shara... Je suis sûr que tu vas aimer. Ça donne la force, ça donne du succès. Et puis, tu peux en prendre pour ta femme. Mais alors, tu as une femme ou plusieurs femmes? On est dans le bureau ovale. C'était il y a 10 jours. Et c'est filmé en direct. Et Trump se marre. Alors, on voit Al-Shara qui est quand même un tout petit peu embarrassé. Alors, on ne sait pas s'il est parti avec plusieurs flacons, s'il les a payés ou pas, on ne sait pas. Mais on est ailleurs. Voilà, on est dans un autre monde.
On reste dans le bureau ovale, Christine O'Crane, parce que...
Ah oui, ça vaut le
coup. C'est un autre monde doré à leur fin, 24 carats.
Très important. Très important, parce que Trump revient et il dit c'est vraiment moche. Donc d'abord, je mets ça, chaque président le fait, je mets au mur les portraits... Des présidents qui m'ont inspiré. Donc, il y a tout à fait légitimement un portrait de Ronald Reagan, etc. Et puis, il dit, il faut mettre de l'or, parce qu'il n'y a rien de plus beau. Donc, il en parle tout le temps. Tous les gens qui le visitent dans ses bureaux ovales, depuis Bernard Arnault jusqu'à Elon Musk, qui est le grand chouchou pendant un temps, il explique, voilà, je mets de l'or partout, mais il faut que ce soit du vrai. Il faut que ce soit du 24 carats, parce qu'il n'y a rien tel que le vrai.
Pas de peinture.
Le vrai or, non, comme à Mar-a-Lago. Donc, j'ai trouvé vraiment le meilleur or, comme à Mar-a-Lago, donc j'en mets partout. Et alors, il y a un conseil des ministres, retransmis en direct, évidemment sur Fox News, mais en direct, où vous voyez, donc, c'est pas dans le bureau ovale, mais c'est dans une salle à côté, donc, où vous avez tout le gouvernement. Alors, ils sont là, les hommes, la cravate rouge, la casquette MAGA devant les dossiers. Les femmes, elles sont à peu près toutes passées, à mon avis, par le même chirurgien esthétique, mais c'est... Bon, enfin, elles sont là. Et Trump dit, voilà, j'ai vraiment une question à vous poser. Alors, on se dit, il va parler de Gaza, c'était avant... Il va parler de Gaza, il va parler de l'Ukraine, il va parler de l'inflation, enfin, il va parler... Il dit, voilà, qu'est-ce que je fais avec le lustre, est-ce que je mets des feuilles d'or? Parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus beau. Mais il faut que ce soit du vrai. Hein, il faut que ce soit du 24 carats, etc., comme à Mar-a-Lago. Et alors, on insiste. Et c'est terrifiant. Parce que ça fait sourire. Et c'est terrifiant en même temps. Chaque ministre qu'il y va de son compliment en disant « Monsieur le Président, vous avez tellement raison. Il n'y a rien de plus beau que l'or. » D'ailleurs, vous devriez, oui, vous devriez mettre de l'or sur ce lustre. Et alors, il y a une espèce de surenchère dans la servilité. L'un des pires, c'est les Kennedy, là, celui qui dit que l'autisme, ça s'attrape par le vaccin, puis ça sort par l'oreille. Enfin, alors, lui, il fait un concours de pompe avec le ministre de la Défense, qu'on appelle maintenant ministre de la Guerre, parce que c'est plus viril, donc Hegseth. Donc, ils se font filmer en faisant des pompes. Enfin, on est quand même dans un truc. Et chacun y va de son compliment. Mais c'est terrifiant.
Et justement, on va rester dans le bureau ovale parce qu'on a peut-être vécu une des scènes qui restera dans l'histoire. C'est l'humiliation en direct de Volodymyr Zelensky, à qui vous consacrez un chapitre à la lettre Z, bien entendu. Comment vous l'avez vécu? Parce que vous parlez de cette relation. Trump n'aime pas Zelensky. Ça date du précédent mandat. Vous allez nous le raconter en quelques mots. Mais cette scène restera, quand on s'intéresse justement à la communication de Trump, au fait qu'il n'a pas de règles, pas de principes, qu'ils bouleversent les codes et qu'ils ne se trompent pas d'époque. Là, on a vécu quelque chose d'inédit.
Ah, on a vécu, je crois, quelque chose qui a saisi le monde entier de stupeur par la violence. C'était un guet-apens. Ça commence à l'entrée de la Maison-Blanche où il y a un de ces faux journalistes travaillant pour des sites MAGA qui injurie Zelensky. Il sort de la voiture, Zelensky, avant d'entrer dans la Maison-Blanche, et ce type dit « Mais comment? T'es même pas foutu de mettre un costume ?» Donc, oui, Zelensky, il a compris depuis Zelensky.
Hein, il met un costume noir. Blanche avec un costume noir, ouais.
Enfin, bref. Donc, déjà, les premières injures. Et on voit donc... Il y a un premier entretien qui n'est pas filmé, et après, il y a devant les journalistes la conférence. Tout est en direct. Et on voit la violence, l'agressivité de Trump en disant « Mais mais il faut arrêter cette guerre, tu n'as pas les cartes. » Ça, c'est l'argument toujours de Trump. « Tu n'as pas les cartes, donc il faut arrêter, c'est complètement idiot, etc. » Et puis quand Trump commence à, non pas à mollir, mais... le régime baisse un peu, il y a J.D. Vance. J.D. Vance qui est assis sur le canapé, donc à la gauche de Trump, il y a Vance, il y a Rubio qui dit rien, et il y a Bessent, vous savez, celui qui a toujours le menton en l'air, le secrétaire d'État au Trésor. Bon. Et c'est Vance qui parle, c'est le pitbull, lui. Alors il y va, il dit, eh vous, tu n'as même pas dit merci, mais c'est l'ingratitude avec tout ce que les Américains ont fait. Et alors là, je crois qu'on a tous été saisis de stupeur, à la fois de voir le mépris de ces gens vis-à-vis d'un Zelensky qui incarne quand même un peuple dont on ne peut qu'admirer ce courage invraisemblable. Alors certes, maintenant, il y a les histoires de corruption qui ressortent parce que, hélas, dans toute l'ancienne Union soviétique, la corruption est la culture la mieux partagée, et ils ne sont pas arrivés du tout, manifestement, à nettoyer tout cela. Et on peut penser, d'ailleurs, que le plan russe, là, les 28 points, on peut penser aussi que les Russes ont assez efficacement ressorti toutes ces histoires de corruption dans l'entourage très proche de Zelensky, pour dire c'est le moment où il est affaibli, il va sauter, et donc on va pouvoir y aller, etc., etc. Mais c'est vrai, je crois que cet épisode-là de février de cette année reste dans les mémoires. Et après, il y a un autre épisode qui est tout à fait singulier. C'est qu'avec cette idée, oui, Trump n'aime pas Zelensky, pourquoi ? Parce qu'en 2017, Trump, président, premier mandat, veut absolument détruire la réputation de la famille Biden. et en particulier le fils Biden, Hunter, un espèce de type assez paumé, et qui siégeait au conseil d'administration d'une société gazière ukrainienne, en utilisant le nom de famille, bien évidemment, d'un Biden qui avait été vice-président d'Obama pendant 2 mandats. Et donc, le Hunter Biden, Trump président, appelle Zelensky, qui vient d'être élu. Et il dit, bon, ben, tu vas me rendre un petit service, trouve-moi des preuves de la corruption d'Hunter Biden. La conversation est enregistrée. Ce qui est quand même, de la part du président Trump, un manque de précaution. Et donc, Zelensky refuse. Et il dit, mais non, je n'ai pas à fournir des preuves de ce genre, etc. Et raccroche. Trump ne l'a jamais oublié. Il n'a jamais obtenu les preuves en question. Mais l'enregistrement a servi ensuite contre Trump pour prouver, en fait, un acte de forfaiture d'un genre assez particulier. Mais donc, Trump déteste Zelensky.
Et ça date de là.
Et ça date de là.
Il nous reste quelques minutes, Christine O'Connor. Je voudrais qu'on en profite quand même pour parler de Big Beautiful Bill, qui vous consacrait un chapitre, donc la belle et grande loi. Je vais le résumer ainsi. Elle allège les impôts des plus riches et réduit la couverture sociale des plus pauvres. Quand on sait que l'électorat MAGA n'est pas forcément composé que des personnes les plus riches des États-Unis. Et pourtant, cette loi qui est le grand œuvre de Donald Trump tel qu'il le présente, a quand même des conséquences sociales extrêmement lourdes. Expliquez-nous encore une fois cette rupture, enfin en tout cas comment c'est perçu aux États-Unis quand on a un tel électorat et qu'on vient en plus l'affaiblir.
Mais le BBB, parce que ça c'est aussi le talent de Trump, il trouve toujours des formules qui font mouche. Donc au lieu, enfin chez nous ça devient le énième projet de loi, il y a un titre comme ça que personne, voilà, projet de loi de finances. Non, lui, il dit, on va appeler ça le BBB. Et donc, il envoie des textos en majuscules. BBB, vous allez devenir encore plus riche. Vous allez voir, ça va être l'âge d'or de l'Amérique à nouveau. Et donc, on voit un feu d'artifice, des liasses de dollars. Il faut voir cette iconographie, hein, c'est hallucinant. Des liasses de dollars avec les aigles américains, mais le dollar qui vole. Et donc, le BBB, oui, ce sont ces promesses, en fait, de campagne pour réduire les impôts des plus riches. Parce qu'il faut bien voir qu'il a été porté au pouvoir par une alliance d'un type nouveau entre le socle MAGA du premier mandat, le parti républicain, ce qu'il en reste, mais qu'il a complètement asservi, les grosses fortunes qui, dans la tradition américaine, financent avec des montants obscènes les campagnes électorales des deux camps, mais enfin surtout, en l'occurrence, Trump, pour le faire revenir, puisqu'il va faire baisser les impôts, parce que ces gens, on le sait, payent toujours trop d'impôts, c'est bien connu. Et puis, aussi, et ça, c'est très nouveau dans ce bouquet, enfin, dans ces alliances, les grands barons de la tech. Donc, les Peter Thiel, Elon Musk, évidemment, OpenAI, Altman, etc., etc. Et donc, c'est cette collection de gens. Et le BBB, donc, il concrétise en quelque sorte ses promesses électorales. Il baisse les impôts des plus riches. Et puis, comme il a cette haine d'Obama, et que Obama, l'une des rares réformes qu'il était arrivé à faire passer, et qu'on appelle Obamacare, parce qu'on se plaint toujours ici, chez nous, de tout. Enfin, on a quand même un système de sécurité sociale. Les Américains n'en ont pas, hein. Il faut quand même se rendre compte de ça. Vous avez 60 millions d'Américains qui n'ont aucune couverture sociale. Et si ça vous arrive d'avoir un problème de santé aux États-Unis, préparez votre carnet de chèques, hein, parce que c'est absolument gigantesque. Et donc là, il faut détruire l'Obamacare, parce que d'abord, ça porte le nom d'Obama, donc ça, c'est insupportable pour Trump. Et en plus, c'est du gaspillage, parce que ça va à tous les immigrés illégaux. Donc il y a toute une construction qui justifie pour l'équipe en place la mise à bas de ce système. et qui a été en plus accentué par ce qu'on a appelé le shutdown, c'est-à-dire, ça c'est aussi très américain, le Congrès qui n'arrive pas à débloquer parce qu'il n'y a pas d'accord entre les Républicains, qui ont une légère majorité dans les deux chambres, sièges, oui. et les démocrates. Et donc, le BBB était censé rendre riche tout le monde, non seulement les très très riches, mais aussi la base MAGA. Là-dessus se conjugue une autre opération de Trump qui est en train de se retourner contre lui, qui est cette guerre commerciale qu'il nous inflige aussi, puisque le 2 avril, il a appelé ça le jour de libération. Vous vous souvenez, il s'est fait filmer avec un grand tableau où il y avait les noms de tous les pays par ordre alphabétique, y compris une petite île où il n'y a que des pingouins, mais qui était quand même affligée de 49% de droits de douane supplémentaires. Et ces droits de douane, il a passé son temps à dire, à écrire en majuscule avec des points d'exclamation, vous allez voir, tous ces gens qui nous ont volés, les Européens, qui ne pensent qu'à nous voler, à nous rouler dans la semoule, et là je suis poli, hein, parce qu'il emploie un terme
bien chapitre vulgaire, sur l'Europe.
Eh bien, on va leur faire cracher ce qu'ils nous doivent en leur imposant des droits de douane. Le problème, c'est que les droits de douane, déjà, il a dû les supprimer sur les bananes, le café et la viande, parce que les prix dans les supermarchés ont augmenté. Donc, il y a à nouveau une inflation de 3%. Trump a passé son temps à dire aux Américains, et surtout à son socle électoral, vous allez voir, ce sont les étrangers qui vont payer. En fait, non, ce sont les importateurs américains qui, à un moment, ils avaient des stocks, mais à un moment donné, ça se répercute évidemment sur le prix à l'achat. Et donc, il y a eu des choses, mais absolument, parce que encore une fois, il faut bien voir, on est ailleurs. Donc, on a vu le ministre des Finances, là, le Scott Bessent, qui est un ancien financier de Wall Street, qui a expliqué il y a 10 jours que la raison pour laquelle le prix de la viande augmentait, c'est parce que tous les immigrés illégaux qu'on était en train de chasser repartaient avec leur bétail. Alors, il y a eu des choses hilarantes, parce qu'évidemment, les réseaux sociaux, ça se prête aussi à ça. Donc, on a vu des images avec ces malheureux qu'on oblige à repasser le mur au Texas avec des bœufs qu'ils jettent par-dessus le mur.
Voilà la réalité alternative.
La réalité alternative.
Au crainte, il va nous rester une dernière question avant de conclure. Je reviens sur la boutique de souvenirs et cette fameuse casquette Trump 2028 dont vous parlez. Et parce que ça veut dire aussi beaucoup, et je vais vous citer, parce que vous reprenez une phrase de Trump, alors pardon, c'est très fleuri, ça revient à notre point de départ, il dit dans votre livre, vous reprenez cette phrase, je vais me présenter à nouveau, et ils l'auront dans le cul.
C'est texto dans ce... Il dit ça, il est en smoking, parce qu'il s'adresse à de très riches donateurs républicains, et évidemment, tout le monde rit. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, et c'est pour ça, à mon avis, qu'il faut s'intéresser non seulement à ce personnage, c'est l'homme le plus puissant du monde, il le dit tout le temps, et il est ravi que ce soit le cas. Donc, non seulement c'est l'homme le plus puissant du monde, mais il est en train de casser les codes par son comportement, par son vocabulaire, et que tout ça est contagieux. Donc, il y a un moment où tout le monde parle le Trump, un peu. Et ça vient aussi chez nous, en Europe. Ils ne sont pas inactifs. Tout ce mouvement a commencé par, évidemment, tous ceux qui sont les gros industriels des réseaux sociaux. Tout ça est à l'œuvre dans nos sociétés, c'est à l'œuvre dans nos élections. On a vu le vice-président des États-Unis au mois de février dernier, à Munich, à la conférence de sécurité, qui s'est mis à nous injurier en disant que nous ne respections pas la liberté d'expression. La liberté d'expression, dans leur esprit, c'est de penser comme eux. Et donc, il ne faut pas se tromper. Il y a ce travail-là aussi, et qui se traduit en particulier au Royaume-Uni, en Allemagne, dans la plupart de nos pays, avec une aide évidente aux partis d'extrême droite. C'est plus ambigu en France, pour des raisons historiques qui sont intéressantes, mais on n'a pas le temps de revenir là-dessus. Il ne faut pas se tromper. Le grand ami de Donald Trump, c'est Viktor Orban, le Hongrois. Et c'est Orban qui le conseille pour dealer, il n'y a pas d'autre terme, avec Poutine. C'est Orban.
Et donc, est-ce qu'on peut imaginer prendre cette phrase au sérieux, pour conclure?
2028, un troisième mandat. Alors, il y a déjà des scénarios. Oui, il pourrait faire comme Poutine et Medvedev, vous vous souvenez? Poutine était président, Medvedev n'était pas encore totalement fou ou totalement alcoolique. Et donc, Medvedev était Premier ministre. Ensuite, Medvedev est devenu président et Poutine Premier ministre. Alors, c'est le scénario. Est-ce que... Enfin, plus sérieusement, Trump a quand même 79 ans. Il faut... Jefferson, voir l'interview que Steve Bannon, qui a été très, très très influent pendant le premier mandat, il est un peu moins maintenant, il est d'ailleurs un peu vexé, mais enfin, il est quand même toujours dans le circuit MAGA. Bannon a donné, il y a 3 semaines, un entretien à The Economist, donc cet hebdomadaire britannique de très grande qualité, et il explique que il faut... dit Bannon, qui est catholique. C'est toujours important, la religion. Il faut, aux États-Unis, il faut que Trump fasse un troisième mandat parce que la Providence nous l'a envoyé. La Providence nous l'a envoyé. Il faut qu'il continue le travail.
Ce sera le mot de la fin. Parfait.
En quelque sorte.
Merci, Christine O'Crane. Merci à vous pour cette écoute. Et donc, si vous voulez... en savoir plus sur cette présidence américaine, le livre de Christine O'Crane, Le Trump de A à Z chez De Noël. Merci beaucoup, Christine O'Crane.
Merci à vous.
Toutes ces explications. Merci à vous.